de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma et pour jouer également au blind test, c'est-à-dire qu'on va vous faire écouter 5 extraits. Alors cette semaine, c'est 5 extraits de la filmographie de Guillaume Canet. Pourquoi Guillaume Canet? C'est parce que toi, tu as vu un film avec Guillaume Canet, Guillaume.
Oui, je vais vous parler du Déluge, où il joue Louis XVI.
Et toi, Manu, 2 films.
Oui, j'ai une comédie musicale, Jolie Jolie de Diastème, et puis Banzo.
Et quant à toi, Sophia, un film?
Oui, My Sunshine, un film du réalisateur japonais Hiroshi Okuyama.
Et moi, je vous parlerai d'un film qui était en compétition à Cannes, celui de Karim Aynouz, Motel Destino. Mais nous commençons avec Clara Luciani, José Garcia, William Lakebill dans une comédie musicale. C'est Jolie Jolie.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Écrivez-moi la plus belle histoire d'amour que vous puissiez imaginer. Et je me charge d'en faire un film.
On ne peut pas reprocher à Diastème, ex-journaliste à Première, de se reposer sur ses lauriers. À chacun de ses films, il redistribue les cartes, s'emparant d'un genre différent au point qu'il est difficile de le cerner. Après une jolie romance en 2008, Le bruit des gens autour, il sort Un Français qui suit la trajectoire d'un néo-nazi. Ensuite, il réalise une comédie de vacances, juillet-août. Puis l'an dernier, en 2023, une satire politique avec Le Monde d'hier. Alors rien ne laissait présager qu'il allait s'emparer donc d'un genre casse-gueule, la comédie musicale, si ce n'est sa proximité avec Christophe Honoré, co-scénariste de 2 de ses films, à qui l'on doit d'ailleurs Les chansons d'amour, qui lorgnait du côté de Jacques Demy. Alors on retrouve dans Jolie Jolie cette inspiration, d'autant que Alex Baupin, chaînon manquant entre Vincent Delerme et Michel Berger, signe la musique et les chansons.
Quand je l'ai vue si belle, à l'autre bout du bar, j'ai pensé c'est Noël, quelques jours en retard.
La comédienne principale m'est très chère. Vous la connaissez peut-être?
Quand je l'ai vu si seule à l'autre bout de rien, j'ai pensé qu'il me veuille un peu, ce serait bien.
Bonjour.
Tu l'as rappelé?
Il ne veut plus vous parler.
C'est pas possible.
Alors?
Alors elle veut plus vous revoir.
Il y a des gens qui dorment.
Situé en 1977, entre Paris et Rome, le film raconte les déboires d'un écrivain fauché qui rencontre un soir une star montante du cinéma sans la reconnaître. La suite déroule un programme déjà vu, celui de la rom-com sentimentale avec quiproquo éculé et une inspiration vaudevillesque. La pauvreté du scénario est heureusement compensée par une direction artistique séduisante et puis des seconds rôles truculents de Grégoire Ludig à Laura Felpin en passant par José Garcia, même s'ils ont tendance à jouer un peu comme au théâtre. Mais le couple central est comme frappé d'anémie par un manque flagrant d'incarnation. Clara Luciani et William Lakebill ne sont pas mauvais, mais ils semblent juste sortir d'une sitcom bien emballée, très loin de Cary Grant et Deborah Kerr, dans la deuxième version. La deuxième version de Léo McCarré, qui est vraiment, je dirais, un peu le modèle du film. Pas tant pour la comédie musicale, mais pour la structure du récit. Alors, pas désagréable, parfois amusant, Jolie Jolie ne saisit jamais ce qui fait l'essence d'une comédie musicale, le rythme. Faute à l'absence de chorégraphie et d'une mise en scène énergique. Alors, pour conclure, Jolie Jolie est mignon, en fait, mais ne renouvelle en aucun cas un genre qui a besoin d'une grande forme, comme chez Jacques Demy. Mais en cette fin d'année, le film remplit son petit contrat, celui de divertir sans être jamais vulgaire. Voilà.
Eh bien voilà, vous avez donc rebaptisé Mignon Mignon.
Ouais, voilà, c'est sympa, mais c'est pas Noël. Très bien. C'est pas terrible.
Voilà. Quand même, mais c'est Mignon Mignon ou pas?
C'est mignon.
Bon,
ça alors, se laisse regarder. Voilà.
Voilà. On a commencé avec ce film et on poursuit avec celui de Karim Aynouz qui rejoue le facteur sonne toujours 2 fois dans un hôtel de sexe au Brésil. Nous parlons de Motel Destino.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Quand l'an passé, Karim Aynouz a concouru à la Palme d'Or pour Le Jeu de la Reine avec un Jude Law flatulent, eh bien j'étais un des rares sans doute à trouver à ce long métrage de belle qualité, tant dans son expression, son récit, que ses enjeux philosophiques et politiques. Alors j'avoue que c'est plus difficile avec le nouveau film du réalisateur brésilien d'origine algérienne, le nommé Motel Destino. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a rien à voir. On quitte l'Angleterre du XVIe siècle pour la côte brésilienne et un château pour un motel bézodrome et la reconstitution historique pour un film noir teinté d'érotisme. Alors pour ceux qui ont vu ou lu Le Facteur sonne toujours deux fois, le lien est évident. Le film est riche en musique et là vous écoutez un extrait de cette bande originale. Pourquoi Le Facteur sonne toujours deux fois ? Eh bien parce qu'on suit Heraldo, un tout jeune homme impliqué dans de sales histoires qui se fait plumer par une conquête dans le fameux Motel Destino, établissement qui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir une relation sexuelle dans une ambiance caliente, même si cela fait longtemps que l'hôtel n'a pas été vraiment rafraîchi. Voilà en tout cas Heraldo tenté de rester planqué dans cet hôtel où ça tombe bien ou pas, eh bien la patronne en pince pour lui. S'en suit une relation dans le dos du mari jaloux qui va évidemment pimenter le récit. Surtout quand un projet de mise à mort eh bien, va naître. C'est là que la référence au facteur sonne toujours deux fois apparaît. Alors même si Karim Aynouz assume cette filiation, il ne veut pas de la culpabilité voilà, qu'il y avait dans le précédent film. Mais il ne prend pas non plus le parti pris de Luciano Visconti dans Les Amants diaboliques, hein, dans lequel le mari antipathique pouvait être associé au fascisme de l'époque. Là, le mari homophobe refoulé n'est pas à l'image de l'ex-président Bolsonaro, par exemple. On ne cherchera pas plus loin. Il faudra s'en tenir au ressort classique d'une femme qui en pince pour un jeune homme qui pourrait l'émanciper.
Quando eu vi que não tinha opção, o meu corpo tremeu de tesão. E eu falei que talvez fosse bom.
Alors que le film aurait pu multiplier les explorations eh bien, à l'intérieur de l'hôtel, hein, qui accueille sans relâche des désirs et passions débridées, on n'en voit que ce que les personnages veulent bien capter par un petit soupirail. La plupart du temps, le plaisir des clients est hors champ avec des râles et des cris. Ce qui, et il y a aussi tout ce qu'ils doivent nettoyer une fois que l'acte est consommé. Alors, ce qui reste le moteur de la bande-son, hein, d'ailleurs. Mais on arrive dans la pièce seulement donc, après coup, quand il faut donc nettoyer ces traces de luxure, alors que finalement, eh bien, le réalisateur a placé leur ici dans ce lieu très précis. La trame de l'histoire se cantonne à ce trio déséquilibré et ne joue pas vraiment à décrypter les désirs. C'est surtout Eros et Thanatos qui rôdent. Alors comme je l'ai vu à Cannes, j'avoue d'ailleurs que je n'en ai pas un grand souvenir, rien n'est vraiment resté imprimé, comme si le récit était un peu vain. Je crois avoir surtout bien retenu cette ambiance un peu malsaine, cette chaleur, cette moiteur, cette tonalité brésilienne, loin de l'ambiance plage et carnaval, et puis cet accent portugais. La preuve que le film m'a vite quitté, je ne me souviens plus des scènes stroboscopiques dont il est indiqué finalement au début eh bien, qu'elles peuvent maltraiter le spectateur. J'avoue que j'en ai aucun souvenir. Voilà. C'est ainsi. Donc Motel Destino de Karim Aynouz, qui était en compétition à Cannes et qui n'a rien obtenu, eh bien, est en salle depuis le 25 décembre. Joyeux Noël. Les derniers jours de Louis XVI sous surveillance avant son exécution, nous parlons du film Le Déluge.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma. Et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Sire, j'ai ordre de vous accueillir, vous et votre famille, ici à la tour du Temple.
Vive la France ! Vive la Révolution !
Noël au balcon, Noël sans menton. Alors c'est un peu ce que se diront les spectateurs qui iront voir le dernier film de Gianluca Giudice, hein, Le Déluge. Avant le monde nouveau de 2025, retour à l'ancien régime et plus précisément en 1792. Alors Louis XVI et Marie-Antoinette sont arrêtés et conduits au donjon de la Tour du Temple. Nous allons assister aux derniers mois avant leur exécution, ce qui dénote déjà parmi cette espèce de sous-genre qu'est le film de décompte. Alors régulièrement au cinéma, nous avons un long métrage qui vient nous raconter une histoire de l'ombre, les événements événements qui se sont déroulés juste avant un grand événement historique. Par exemple, là, on se rappelle de Diplomatie, hein, de Volker Schlondorff, hein, qui retrace la fiction, par la fiction, hein, ce qui s'est passé pendant la nuit du 24 au 25 août 1944, lorsque le sort de Paris se joua entre le général von Scholitz, qui se préparait sous ordre d'Hitler à faire sauter la capitale, et qui va hésiter à amener cette abomination à terme grâce à sa longue discussion avec le consul suédois Nordling. Alors ce sous-genre du film de décompte, hein, est la plupart du temps une invention qui met en lumière les coulisses inconnues d'une action véridique qui, elle, est depuis passée à la postérité et se déroule en une journée, voire en quelques heures. Ici, donc, il est question de moi, mais aussi d'une adaptation libre, inspirée d'un document existant, les carnets de Cléry, le valet de chambre du roi, resté auprès de lui jusqu'à sa mort.
Dans un premier temps, c'est ici que vous dormirez?
Ce doit être une erreur. Il ne s'agit que de quelques jours.
Bientôt, nous retournerons à nos bals masqués.
Nous pouvons semblant de ne pas comprendre que ce temps appartient désormais au passé.
Extinction des feux!
Le titre est intéressant, hein, car le déluge, hein, pourrait signifier pas mal de choses, hein, toutes plus symboliques les unes que les autres. Le premier déluge, hein, c'est bien sûr cette idée de ruissellement populaire, hein, ce qui s'est abattu, hein, sur un régime et une famille politique qui allait bouleverser et l'existence d'un peuple, mais aussi donc d'une famille, hein, et de leur avenir commun. La chute du roi entraîne, hein, de nouveaux lendemains pour tous, sans que certains ne réalisent que le leur, hein, sera beaucoup plus court que celui des autres. Alors que le roi, ayant lien avec Dieu, hein, tombe au nom des hommes, hein, c'est donc amusant de voir cette image biblique frappée à la porte du crépuscule de la vie de Louis XVI. Le déluge de la Bible est censé tout remettre à plat et relancer l'humanité vers une nouvelle ère, ce dont il est question dans le long métrage, mais à aucun moment cette nouvelle ère semble prospère ni joyeuse. Le second, hein, bah, c'est cette pluie, hein, que l'on semble entendre hors champ à la toute fin, lors des derniers instants, hein, du roi, qui laverait les péchés de ses bourreaux sans qu'eux-mêmes ne semblent trop y croire. On se remémore, hein, alors les paroles de Travis Bickle, hein, le protagoniste vicieux et vicié de Taxi Driver de Martin Scorsese, qui espère qu'une pluie viendra laver, hein, les rues de leur crasse, mais la possibilité de futur que lui incarne, hein, est elle aussi tout sauf réjouissante, hein, quand on connaît le bonhomme. La troisième lecture, bah, serait donc une reprise, hein, de la célèbre phrase de Madame de Pompadour, hein, « Après nous, le déluge », qui désirait remonter le moral de Louis XV, son amant, après la bataille de Rosbach, hein, en l'invitant à ne pas penser aux conséquences dramatiques de cette défaite. Louis XV reprendra fréquemment cette maxime égoïste sous la forme « Après moi, le déluge », notamment en parlant de son dauphin, le futur Louis XVI.
Sire, il met de Paris à feu et à sang.
Et pourquoi ?
La Convention a décrété à l'unanimité l'abolition de la monarchie.
J'ai ordre d'éloigner toutes les personnes qui ne font pas directement partie de la famille royale.
Vous faites maintenant partie des simples citoyens et c'est ainsi que vous serez traités.
Et aussi jugés en tant que tels, je l'espère.
Ne regardez pas.
La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable d'attentat contre la sécurité générale de l'État.
Accusé de choses injustes, vous l'entendez?
Marie est un honnête homme. Son seul tort, c'est d'être roi.
Je n'ai pas compris le sens de leurs accusations.
Je vais demander pardon.
Vous ne devez pas avoir peur.
Je crois que notre affaire est en bonne voie.
Je ne supporte plus ta stupidité indécente pendant que ces bandits nous torturent.
Pour accompagner le spectateur dans le déroulé de ces derniers mois, le film est structuré en trois actes. Alors le premier, Les Dieux, met en scène la fin des privilèges du roi et de sa famille, fraîchement incarcérés. La lente chute du ciel va s'opérer surtout pour un Louis XVI toujours flottant, toujours optimiste car complètement déconnecté de ce qui se passe. Le deuxième acte, Les Hommes, montre la force de caractère de Marie-Antoinette, bien plus éclairée, consciente et alerte sur ce qui se passe, que son mari est incapable d'une quelconque forme de rébellion. Il l'établit comme véritable politicienne, loin de l'image de gentille idiote, hein, que la conscience populaire a établie, et se pare, bah, des attributs d'une lionne diplomate essayant d'aménager le pire, hein, qui est en train d'arriver. Le troisième acte, Les Morts, achève de transformer cette famille en victime, hein, d'un sort peu enviable, incapable de résister au temps qui a tourné une page importante et essentielle de l'histoire de France. Le déluge, hein, malgré ses longueurs justifiées, hein, car elles épousent cette idée de temps figé vers un avenir de mort, hein, est donc un portrait peu banal, hein, de cette période vue d'habitude sous un aspect plus noble, hein, sans jeu de mots, même s'il ne faut pas oublier la période plus sombre de la terreur qui a suivi celle de la Révolution. Alors à l'image de sa photographie glaciale et de ses très rares mouvements de caméra, Le Déluge veut sûrement dire quelque chose de notre époque, quelque chose de nouveau mais de pas forcément agréable, hein, tout en ayant le recul du conteur qui s'appuie sur l'histoire pour rappeler les destins éminemment humains de tous les gens impliqués dans la difficulté du changement. Alors à méditer ou pas, hein, pour cette nouvelle année.
Le Déluge de Gianluca Jodis est en salle depuis le 25 décembre. Ça nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Guillaume Canet. Guillaume Canet, acteur de 51 ans, également réalisateur, hein, 30 ans de carrière, 80 films, un César pour Ne le dit à personne. 5 extraits et en voici le premier.
C'est pas parce que t'es le remplaçant de l'équipe qu'il faut me le faire payer en venant foutre ta merde.
Attends, Marcel, on est assez grand pour savoir ce qu'on pense, hein.
Tu sais pourquoi t'es là, Pierre? C'est grâce à ton cheval. Et moi, je fais tout pour t'éviter de faire des conneries dessus.
Et Marcel, t'arrêtes avec ça maintenant, d'accord? Parce que je te jure qu'avec tout le respect que j'ai pour toi en tant que cavalier, t'es le plus mauvais entraîneur que je connaisse. D'accord? T'es même pas foutu de voir que ce cheval, il est super compliqué à monter. Et à ce niveau-là, il n'y a pas un cavalier qui soit capable de lui faire sauter ses barres. Tu me demandes de le monter avec du train alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Mais comment tu veux que j'ai confiance en moi? Tu te rends compte tout ce que tu m'envoies dans la gueule? Mais tu te rends compte de comment tu nous parles? On te demande juste de sauter moins gros. Qu'est-ce que ça peut te foutre, franchement?
C'est trouvé.
Japlou?
Oui, il y avait des gros indices, hein, cheval, tout ça. Donc, film de 2013 de Christian Duguay avec Marina Hans et Daniel Auteuil également. Un avocat arrête sa carrière pour se consacrer à sa passion, l'équitation, plus précisément le CSO. Son objectif est de s'imposer au JO de Séoul. 1,8 million d'entrées en France. Ce film a très bien marché et c'était le cas aussi pour celui-ci. Deuxième extrait.
Plus rien. Plus rien pendant 10 ans. Plus rien pendant 3652 jours et 3653 nuits. Fini le jeu. Les jeux. Le piment de mon existence. J'ai erré dans ma vie comme on erre dans une tragédie de Racine. Hermione version mec. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais. Sophie m'a assassiné. Trucidé. Égorgé, baisé, enculé et tant d'autres rimes tarées. Et puis j'ai fini par y penser à l'imparfait. Me résoudre au bonheur fade de ma naissance. L'amour, la famille, le boulot, l'antenne parabolique. Du Racine, je vous dis.
Trouvé, Sophia.
Oui, il s'agit de jeux d'enfants.
Oui. De Yann Samuel, film de 2003 avec Marion Cotillard, cap ou pas cap, hein, une vie entière pour se dire je t'aime, 80 ans pour démarrer une histoire d'amour et tout ça à cause d'un jeu ou peut-être grâce à un jeu, 1,1 million d'entrées en France pour ce film. Troisième extrait du blind test consacré à la filmographie de Guillaume Canet.
Bon, écoutez, là ça en devient presque drôle. Dans tout ce que je vous ai dit, là, tout n'est pas vraiment vrai. En fait, Jordan, je le connais pour ainsi dire pas du tout. Ben voilà, j'ai cité son nom, comme j'aurais pu dire Elton John ou Dalai Lama. C'était une combine pour rentrer.
Ben ça a marché, vous êtes là. Mais à présent, pour votre peine, vous allez me retrouver Jordan.
Ben vous avez qu'à engager des détectives privés. Hein, ils le font très bien, c'est leur métier.
En attendant, vous êtes comme lui. Vous vivez la nuit. Comme ça, au moins, il y aura un but à vos déambulations. Et une motivation, 1 million de francs. 100 000 tout de suite, le reste quand vous aurez trouvé Jordan.
Non, gardez votre pognon, je suis pas le type qu'il vous faut, vraiment.
Oh, mais si, vous êtes exactement ce qu'il me faut.
Alors, ce n'est pas trouvé dans le studio. Quel indice pourrais-je donner? Il a été réalisé en 2001. Il y a Gérard Lanvin aussi qui est dedans. Le réalisateur, il a réalisé quelques films, mais il était surtout connu à la télévision. C'était un animateur très populaire. Oh, j'en ai beaucoup dit.
Ouais, mais j'ai pas vu.
C'est un film de Bernard Rapp, non?
Ah non, non, pas non, du non. Tout. Non, il n'en a fait qu'un, lui. Et non, c'est un film d'Antoine Decaune, Les morsures de l'aube. Antoine, nightclubber invétéré, vit la nuit, forçant les entrées des lieux les plus prisés. C'est grâce au mystérieux Jordan qu'il accède aux nuits branchées. Mais le pic-assiette se fait prendre à son propre piège et un homme menace à l'appui, l'engage à retrouver le fameux Jordan avec qui il a un compte à régler. Et on entendait donc cette discussion. 436 000 entrées en salle pour ce film. Quatrième extrait.
Bon, qu'est-ce que t'as? Tu veux que je me sente coupable? Je me sens coupable, voilà. J'y arrive pas. J'arrive pas à la quitter. Je sais plus quoi faire.
Quitte cette fille.
Elsa, elle s'appelle Elsa.
Bah, quitte Elsa.
Tu veux pas te retourner quand je te parle? Tu vois pas, c'est important ce que je te dis, là?
À qui je peux parler si c'est pas à toi?
Ça me gêne.
Ça te gêne?
Non mais l'autre.
T'es pris pour ma mère ou quoi, toi? Grand Mathieu, incorruptible, monsieur bien sous tout rapport, c'est ça?
Arrête avec ça, tu me fais chier. Je te dis que ça me gêne vis-à-vis de Delphine.
Alors, ça n'a pas été trouvé ici dans le studio, c'est un film de 2023. Celui qui donne la réplique à Guillaume Canet est Yvan Attal. Oh, il parle peu, c'est vrai.
Oh, je l'ai vu.
Mais oui, c'est toi qui l'as chroniqué.
Non,
oui.
Je ne l'ai pas chroniqué, mais c'était très mauvais.
Oui. Alors, c'est toi horrible. Qui pensais que c'était très mauvais, voilà. Ouais. Amis de très longue date, deux hommes voient leur relation se détériorer quand l'un d'eux découvre que l'autre entretient une liaison extra-conjugale. Quand la maîtresse est retrouvée morte, la suspicion s'installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâcheté, de mensonges et de culpabilité. 474 000 entrées en France pour ce film. Dernier extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Guillaume Canet.
Faut que je te parle, tu peux t'asseoir là.
Est-ce que t'as pris mon carnet?
Ça va, commence pas, je l'ai pas pris, il était posé là sur le buffet.
T'as pas vu les clés du petit escalier?
Ils sont dans ma poche.
Bah donnez-moi.
Non. Je veux pas que tu partes. C'est moi qui vais me tirer. Si t'es plus là, Philibert va redevenir comme avant. Je peux pas lui faire ça. Il m'a aidé quand j'étais dans la merde et je veux pas lui faire de mal. Il ne mérite pas. Ouais, c'est toi.
Alors, ça n'a pas été trouvé, je suis surpris. Alors là, qui lui donne la réplique? Vous avez entendu? C'est la merveilleuse Audrey Tautou. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est premier indice. C'est un film de Claude Berry, adapté d'un roman de Anna Gavalda.
Pas Dieu est grand.
La délicatesse?
Non.
C'est pas la délicatesse.
Non, c'est... Ensemble, c'est tout.
Ah oui, bah, pas vu. Hein, donc.
Eh oui. Alors, à Paris, de nos jours, quatre personnes de destins très différents cohabitent, s'aiment, se déchirent et finalement trouvent un nouveau sens à leur vie. 2,3 millions d'entrées en France pour ce film, donc porté déjà par le roman qui avait très bien fonctionné. Et puis Laurence Stoker, qui joue avec Audrey Tautou et Guillaume Canet, a remporté le César du meilleur espoir en 2007. Voilà, ainsi s'achève ce blind test concernant la filmographie de Guillaume Canet, puisque nous parlions du film Le Déluge. Un groupe de contaminés est isolé au milieu d'une forêt. Nous parlons de Banzo.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Banzo souffre par une séquence très intrigante. Un homme noir, beau et musclé sur un bateau, regarde au loin un paysage d'une île tropicale. Brusquement, il s'effondre sans raison apparente. Afonso, un médecin, constate le décès mystérieux. Ainsi débute le film qui se déroule en 1907 au cœur d'une colonie portugaise, les îles de São Tomé et Príncipe, dans une plantation de cacao. Le docteur Afonso débarque pour soigner un groupe de domestiques infectés par une maladie étrange nommée donc Banzo, qui perturbe les esclaves non pas tant sur le plan physique que psychologique. En effet, ils sont atteints d'une forme de mélancolie qui les incite à se laisser mourir. Les décès s'accumulent sans qu'aucune solution ne semble émerger. Certains ne s'alimentent plus, d'autres se pendent. Par crainte de ce phénomène ne soit contagieux, le groupe est envoyé sur une colline isolée au milieu de la forêt.
Estão todas prontas? Trabalhar!
La cinéaste portugaise Margarida Cardoso s'intéresse au colonialisme d'un point de vue psychique, ce qui n'exclut pas une lecture politique de cet objet hermétique au premier abord, mais stimulant à plus d'un titre. Aboli en 1869 au Portugal, l'esclavage perdure toujours en dépit des lois. Il se poursuit là, dans le film, avec un autre visage, moins explicite mais tout aussi violent, validé par une machine administrative qui prive les individus de leur liberté en falsifiant les documents. Alors sans pathos ni simplisme, Cardoso analyse finement les rouages d'un système occidental, oppresseur qui ne se rend même plus compte de son inhumanité. Elle n'occulte pas le mal dont est responsable son propre pays, donc le Portugal, qui a mis beaucoup de temps pour sortir de sa vision colonialiste. Son discours politique ne sombre pourtant jamais dans la démonstration, préférant l'ambiguïté à la charge binaire. Banzo est perçu à travers le regard étonné et parfois révulsé de son personnage central, Afonso, alter ego du spectateur qui découvre un monde archaïque qui refuse les évolutions sociales. Alors ce blocage progressiste a pour conséquence de plonger les Noirs dans une nostalgie sans retour, une sorte de rêverie sans fin où la liberté n'est qu'une chimère. Pour étayer ce propos, la mise en scène fait preuve d'une grande rigueur formelle avec ses longs plans larges picturaux d'une beauté à couper le souffle, magnifiant la nature environnante. Alors, elle ne s'arrête pas à cette précision du cadre et de sa photo qui est somptueuse. Elle sait se rendre plus souple, aérienne, avec de très fluides mouvements de caméra quand la nécessité l'impose. Alors, cette approche esthétique, aride, si elle permet une grande lucidité sur ce qu'elle observe, peut aussi mettre le spectateur à distance et finir par le perdre. D'autant que la direction d'acteur est au diapason, volontairement atone, plus intéressée par la rhétorique, les échanges verbaux complexes que par le jeu. Bref, une œuvre quand même exigeante, mais qui aurait quand même pu sortir à un autre moment que pendant les fêtes. Je trouve que c'est une sortie un petit peu suicidaire pour un film qui demande beaucoup de concentration. J'ai dû le revoir une deuxième fois pour l'apprécier.
On se frotte au patinage et au désir amoureux, et on va au Japon avec My Sunshine.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Un film japonais qui a pour sujet le patinage artistique sur l'île enneigée d'Hokkaido, voilà qui pourrait avoir de quoi séduire en cette période de fêtes de fin d'année où nous n'avons pas tous et toutes l'opportunité d'évoluer dans des paysages féeriques maculés de blanc. Okuyama, le réalisateur qui a travaillé comme directeur de la photographie sur de très beaux films, hein, comme notamment Lumière d'été sur la tragédie d'Hiroshima, signe à présent avec My Sunshine son second long métrage personnel, en étant non seulement à la réalisation, mais aussi à la caméra et au montage, opérant ainsi un contrôle total et qui se ressent. Hiroshi Okuyama donc nous livre ainsi un conte tout doux, vraiment très kawaii, comme disent les Nippons. Alors ça veut dire super mignon. Hein. Donc voilà, après Joli Joli qui était très mignon mignon, on dirait que c'est deux saisons. Très peu d'aspérité donc dans le film, même s'il parvient à esquisser une réflexion sur certains sujets plus complexes et instaurer de la nuance dans ce récit d'apparence innocent. Car ce conte, de grâce, dévoile en fait sous la surface brillante et lisse de la glace un jeu de miroir brisé. On suit en plan fixe au format 4 tiers, un peu carte postale, un jeune lycéen, Takuya, qui a probablement autour des 14 ans. Présenté comme rêveur et sensible, il souffre d'un bégaiement assez handicapant, même s'il reste souriant et volontaire. Il n'en demeure pas moins en décalage par rapport à ses camarades qui, à cet âge, développent une forme de puissance virile, notamment à travers le verbe, mais surtout le sport, le baseball et le hockey sur glace durant l'hiver. Le premier plan nous montre d'ailleurs, nous le présente, hein, ce Takuya, le nez en l'air, en plein entraînement, plus occupé à observer les premiers flocons de l'année qui tombent qu'à prendre part au jeu. C'est à la patinoire, après avoir été blessé par un palet de hockey, qu'il remarque la gracieuse Sakura qui s'entraîne au patinage artistique avec un niveau particulièrement avancé et un coach personnel, Monsieur Arakawa. C'est à ce moment que la caméra sort de son état de gel. Réchauffée par cette apparition solaire, elle commence à se mettre en mouvement, opérant des travelling fluides pour suivre les déplacements de la jeune fille. Ballet gracile de mouvements d'une puissante et délicate gestuelle. Takuya est hypnotisé, transformé par cette apparition, ce que la colorimétrie traduit bien en évoluant d'un froid bleuté, hivernal, vers une chaleur inattendue qui évoque un rêve de lumière. Ces alternances en fait, entre la mobilité glaciale de la mise en scène et cette légèreté de mouvement lors des scènes de patinage est exploitée de bout en bout dans le film et participe à en faire comme un va-et-vient permanent entre fantasme et réalité. Fasciné, donc, Takuya commence à s'essayer au patinage et le coach Arakawa le repère, se prend d'affection pour lui et l'invite à troquer sa crosse de hockey pour rejoindre Sakura et participer aux compétitions de danse sur glace en couple, tous les deux. Ce à quoi Sakura consent un peu malgré elle. Alors que le cinéaste, enivré par la beauté de ses propres images, focalise énormément sur les scènes d'entraînement, My Sunshine se trouve un peu affecté par autant d'éblouissements. La photographie très lumineuse et travaillée, avec comme un voile de givre permanent sur l'image, la rend comme adoucie, pastelisée par cette teinte de blanc omniprésente qui diffuse et atténue la lumière. Les échanges et dialogues sont réduits au strict minimum et on se fait asséner 4 ou 5 fois le clair de lune de Debussy. Donc bon, la combinaison de tous ces facteurs rend la facture un peu simple, un peu niaise presque, en tout cas trop légère. Et c'est peut-être aussi parce que bon, on a l'habitude, on s'est accoutumé à des choses plus crues à l'écran dans le cinéma qu'on consomme habituellement sous nos latitudes. Avec une intrigue très Billy Elliot, hein, mais sans l'adversité réservée au jeune homme, puisque ses parents sont ok pour qu'il patine, les moqueries disparaissent, hein, sous la bienveillante protection du coach, eh bien c'est justement lui, l'adulte, le coach Arakawa qui se fait rattraper par le réel et ses persécutions, notamment à l'égard des homosexuels dans un Japon rural. Ses motifs profonds sont questionnés et il se fait rejeter de la forteresse enchantée qu'il pensait avoir innocemment érigée. Le cinéaste glisse un peu à la surface de son sujet, mais jamais ne trébuche pour se heurter à une forme de violence trop frontale. Il la laisse s'immiscer comme un printemps doucereux qui peu à peu fait fondre les neiges et le lac glacé, ainsi que les illusions d'un monde merveilleux préservé du réel. Les festivaliers à Cannes ont apparemment accordé la plus longue standing ovation du festival à ce film, apparemment. Je vous souhaite, chers auditeurices, d'être aussi charmés qu'eux par My Sunshine.
Et le film est à voir donc depuis le 25 décembre.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir. De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale fin d'année 2024. On aura choisi trois films qu'on a envie de défendre particulièrement et on jouera un blind test pour découvrir quelques films de l'année 2024. À bientôt.